Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous allons vous restituer les résultats de nos travaux portant sur un procédé d'IA de type UEBA. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, ça vous a déjà été présenté. Donc, qui analyse les comportements pour détecter un scénario globalement hostile. Vous reconnaîtrez dans la présentation l'un des scénarios qui vous a été présenté précédemment, dont nous sommes les auteurs. Je passe la main à Alexandre pour débuter.
Donc, dans un premier temps, on va commencer sur quelques éléments de contexte vis-à-vis des menaces cyber actuelles. Donc, je pense qu'on peut s'accorder à dire que leur nombre et leur complexité évoluent assez rapidement et même grandissent assez rapidement. Et en parallèle de ça, on commence à de plus en plus entendre parler d'actions hostiles qui s'étendent sur des larges périodes de temps, avec beaucoup de moyens financiers et humains derrière pour les mener. Donc, je pense notamment aux APT. Pour détecter ces menaces, on peut faire appel à la fois à des capteurs type cyber, donc notamment les IDS, les logs applicatifs, etc., mais également à des événements non cyber, notamment les rapports d'usine sur les groupes de hackers. Pour ces groupes de hackers, l'objectif va toujours être de passer en dessous du radar, et pour ce faire, ils vont essayer de mimiquer au maximum le comportement normal d'un système. Donc, c'est ce qu'on va appeler des signaux faibles. Des signaux qui, en apparence, vont être plutôt normaux, mais pourtant vont apporter quand même beaucoup d'informations sur les mouvements d'un intrus dans les systèmes d'information. Également, ils vont chercher à polluer les données, polluer soit nos données d'entraînement pour une intelligence artificielle, soit même juste les données qui vont circuler pour diluer au maximum leur attaque. Et en plus, si cela, ça ne suffisait pas, on a un volume de données qui va grandissant, donc naturellement grandissant avec le nombre d'usages qu'on fait de plus en plus important de nos systèmes d'information. Donc, à titre d'exemple, on met quelques petits schémas très simplistes de ce qu'on pourrait retrouver actuellement en termes de détection d'intrusion. Donc, pour avoir un faux positif isolé, qui pour beaucoup serait détecté comme étant un signal fort, une attaque, une intrusion, on pourra aussi avoir des chaînes qui sont uniquement constituées de signaux faibles ou très légèrement suspects. Donc, ça, ce sera typiquement le cas d'une APT qui va être au maximum proche du comportement normal d'un utilisateur. Et enfin, un autre scénario qui est assez intéressant, c'est un mélange de signaux forts et de signaux faibles. Donc, une intrusion qu'on pourrait repérer assez facilement, suivie des actions qui vont être plutôt discrètes sur le système d'information. Au niveau de nos besoins actuels, donc on a forcément ce besoin de détecter des actions hostiles qui vont s'étendre sur des larges périodes. Donc, ce serait très bien de pouvoir détecter les APT. Également, pour tout système de détection, il ne faut pas oublier que c'est un humain qui va opérer derrière des humains qui vont opérer derrière ce système. Et du coup, on va devoir créer des alertes qui vont être explicables. Donc, comprendre pourquoi on a levé une alerte pour un système d'intelligence artificielle. Idéalement, on voudrait pouvoir s'adapter à la fois à l'évolution des menaces. Donc, une nouvelle attaque qui sort, on n'a pas besoin du travail d'un expert pour la détecter. Mais également des comportements à l'intérieur d'un système pour pas lever de faux positifs ou même de faux négatifs. Et pour répondre à cette problématique de quantité de données, une capacité de mise à l'échelle complète est nécessaire dans un système qui va effectuer beaucoup de calculs. Donc, au niveau des solutions qui existent actuellement, on utilise beaucoup les SIEM. L'avantage des SIEM, c'est que ça fait plusieurs années qu'on les utilise et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs différents de ces systèmes-là, donc ça en fait une technologie qui est plutôt robuste. Mais d'un autre côté, un SIEM, les règles de corrélation, les règles de détection à l'intérieur d'un SIEM sont créées à la main par des experts. Donc, même s'ils sont assistés, ça reste réactif. On doit d'abord connaître la menace avant de pouvoir créer une règle qui lui correspond. Donc, ce qui fait que ces SIEM vont avoir beaucoup de mal à détecter les signaux faibles, donc des signaux qui vont changer, qui vont être plutôt spécifiques au système d'information à surveiller, et également des problèmes de gestion de la temporalité. Donc, des événements qui vont pouvoir se passer sur des échelles de temps variantes. Donc, si on prend le schéma qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on pourrait attendre d'un SIEM plutôt bien configuré, c'est que un faux positif isolé, lui, va quand même lever une alerte, étant donné que c'est un signal assez fort, assez marquant, et il ne prendrait pas le risque d'ignorer ce signal. Mais là où c'est très intéressant dans un SIEM, c'est le mélange de signaux forts et de signaux faibles. Il verrait les signaux forts, évidemment. C'est important. Mais par contre, toute la chaîne qui va suivre derrière et qui est potentiellement intéressante, étant donné que ça pourrait être le mouvement d'un pirate sur le système d'information, il ne va pas forcément l'avoir. Donc, au niveau des technologies d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser, donc, on a choisi l'UEBA, donc on en a déjà parlé. Le principe général, c'est d'apprendre les comportements des utilisateurs et des entités sur notre système d'information, et ensuite de détecter dès que notre comportement va dévier de la référence. Ça a l'avantage d'être agnostique du bien et du mal, donc on va pouvoir détecter des attaques qu'on n'a jusque-là jamais connues, étant donné qu'on ne va pas apprendre à reconnaître ce qu'on connaît déjà. Mais c'est aussi un inconvénient, étant donné que toutes les anomalies ne sont pas nécessairement liées à des actions hostiles. Au niveau des méthodes d'entraînement, on peut retenir deux façons différentes. Soit une fois pour toutes, donc on entraîne une première fois sur notre jeu de données et ensuite on distribue nos modèles et on n'y touche plus. Soit en continu, donc les modèles sont mis à jour soit périodiquement, soit continuellement. C'est plutôt cette deuxième partie, deuxième méthode qui nous intéresse, étant donné qu'on a cette contrainte de s'adapter à l'évolution des menaces et des comportements des utilisateurs. Mais le problème, c'est qu'au niveau des solutions de EBA qui existent actuellement, il y a quelques soucis. Donc, d'abord, sur des problèmes technologiques, donc des algorithmes qui ne vont pas forcément être adaptés pour traiter des milliards d'événements comme ce qu'on peut retrouver sur un système d'information classique de grande taille, mais également aussi sur les capacités à gérer des multiples variables de types différents, donc catégoriels, numériques ou même de type chaîne de caractères. Derrière, un autre problème, ça va être souvent l'effet boîte noire de ces algorithmes. Donc, ils vont lever une alerte, mais ils ne vont pas expliquer quelles sont les raisons précises de la levée de cette alerte. Et ce qui va mener souvent à des simplifications des problèmes. Donc, on va essayer de créer un modèle qui va fonctionner, mais pour une vue restreinte de notre système. Enfin, au niveau de la temporalité, on a aussi c'est des problèmes d'implémentation. Donc, souvent, on va simplement compter des nombres d'alertes sur une plage de temps donnée. Donc, mettons, s'il y a eu beaucoup d'alertes en cette semaine, on va considérer que cet utilisateur est frauduleux. En réalité, c'est absolument incompatible avec la détection d'APT, parce que par définition, eux, ils vont essayer de s'adapter à des plages de temps qui vont être très variées, voire très grandes. Et en dernier lieu, un problème qui est très peu traité actuellement, c'est le problème de la grenouille ébouillantée. Donc, on en parlait tout à l'heure pendant la question. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un attaquant qui est déjà dans nos données d'entraînement? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on part du principe qu'il est suffisamment peu présent? Ou est-ce que, petit à petit, il va pouvoir réussir à distiller à l'intérieur de notre modèle des informations sur son attaque qui vont pouvoir, à la fin, lui autoriser à faire passer une attaque de plus grande envergure? Donc ça, c'est un biais qu'on aimerait traiter. Et on s'est rendu compte que juste la simple synchronisation de détacher la phase des données d'entraînement à la phase des données d'inférence n'est pas suffisante et il va falloir mettre au point un système un peu plus perfectionné pour ça. Donc je vais passer la main à Jean-Philippe pour vous détailler l'approche qu'on a eue pour notre solution.
Merci Alexandre. Alors, notre approche comprend basiquement deux preuves de concept, POC en abrégé. La première est terminée, la seconde est presque terminée également. Nous nous sommes attachés à bien garder à l'esprit de ne pas tomber dans les biais qu'on a évoqués et de nous focaliser sur le caractère explicable des résultats pour éviter l'effet boîte noire, évidemment. Ces travaux seront poursuivis par une thèse, nous y reviendrons plus tard. Donc vous retrouvez le schéma initial, donc vous avez le monde observé. Chaque événement, au moment où il est connecté, suit deux circuits. Donc par le haut, ici, vous avez chaque vecteur de données qui passe dans la partie apprentissage pour venir enrichir le modèle des comportements, et au même moment, il passe par la partie inférence pour être comparé au modèle, ce qui effectivement génère un souci au niveau de la représentation des connaissances. Donc notre approche comporte deux apports majeurs. Une IA de mémorisation donc qui permet de remplacer la synchronisation et de sauver la grenouille bouillantée. Et une troisième phase à l'intelligence artificielle. Donc, en plus de l'apprentissage et de l'inférence, on y ajoute une couche de corrélation très importante puisque effectivement, ça participe du caractère explicable du résultat, et notamment en gérant la temporalité. Donc, pour vous présenter la première preuve de concept, vous allez reconnaître le schéma qui vous a été présenté précédemment. C'était notre scénario, mais on l'a un peu amélioré depuis. Et on va vous le détailler. Donc, commençons par dresser un petit peu le théâtre. Donc, vous avez ici une entreprise, une centaine de salariés qui sont représentés ici. Un sous-ensemble va faire l'objet d'un criblage, d'un ciblage et d'une attaque. Deux seront attaqués. Les mêmes employés peuvent travailler ici de chez eux en télétravail. Vous avez dans l'entreprise une zone démilitarisée, donc des pare-feux, des équipements réseau, un serveur de messagerie. Et à l'extérieur de l'entreprise, vous avez le hacker, un réseau social, en l'occurrence Facebook, et ici, des tiers, donc par exemple des clients ou des fournisseurs. Dans notre scénario, 99,99% de l'information, c'est des comportements normaux. En l'occurrence, c'est les envois de mails entre les salariés en interne par la messagerie, avec les tiers, les envois de mails également des salariés de l'extérieur, des flux vers les équipements réseau, tous les flux sont couverts sans exception. J'en viens maintenant à la partie hostile du scénario. Donc on a un hacker ici, effectivement, qui prépare, qui étudie un petit peu l'information disponible pour identifier des tiers en contact avec des salariés, qui prépare un kit d'attaque, qui envoie ensuite un mail à deux employés en se faisant passer pour un tiers, donc il y a une usurpation d'identité, en envoyant une pièce jointe malicieuse qu'il a préparée dans son kit. C'est l'incongruité numéro 1, BI1 ici. L'un des employés malencontreusement active la charge utile, laquelle effectue un scan de port au ralenti pour être peu détectable sur un ensemble d'équipements et va exploiter la vulnérabilité de l'un de ces équipements, le numéro 1. Puis le hacker se connecte sur l'équipement pour exploiter la vulnérabilité. Soulevons le capot. Qu'est-ce qui se passe plus précisément ? Donc, notre scénario se déroule sur 2 mois. Donc, c'est simulé en accéléré, mais ça dure 2 mois. Il y a 1 mois avant, 1 mois après et 2 jours au milieu avec également des flux normaux, mais aussi des flux hostiles. Donc une centaine d'employés, donc le théâtre, comme précédemment évoqué, c'est un système d'information. On mélange des flux internes et externes mixtes. Au niveau des données, alors on est parti pour cette première preuve de concept sur des données synthétiques, parce qu'il est très difficile d'obtenir des jeux de données réelles, et on voulait bien les maîtriser, parce qu'on a encore, on s'est focalisé sur le caractère explicable. Donc il fallait vraiment qu'on comprenne les données et qu'on soit capable de les labelliser nous-mêmes pour vérifier que le résultat derrière était correct, même si on fonctionne en non supervisé. On a généré à peu près 500 000 métriques avec notre propre générateur. On enrichit les données, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est assez standard de l'agrégation des compteurs sur des fenêtres temporelles. Les métriques, en l'occurrence, sont des flux, des courriels, des protocoles, des ports et une source OSINT. Je reviendrai sur ce point plus tard. La partie IA à proprement parler, donc, ce sont des métriques converties en nombre, un algorithme de type forêt d'isolation non supervisé et des scores qui sont ni normalisés ni filtrés. Alors, initialement, on était tombé dans les biais qu'on a évoqués. On avait simplifié, on avait filtré les données en sortie, mais effectivement, après, dans la dernière couche de corrélation dont je vais parler, ça marchait beaucoup moins bien. Donc, on est sorti du biais, on laisse tout passer. En termes de performance, toute la chaîne fonctionne au fil de l'eau. On a à peu près 5000 métriques par seconde sur un simple ordinateur portable. On reviendra plus tard sur le passage à l'échelle. Enfin, la dernière couche, qui est un de nos apports, c'est une couche de corrélation qui prend en sortie donc, les scores d'incongruité associés aux données, et qui va effectivement essayer de chercher des liens supposés ou évidents entre les informations, y compris des liens temporels, en essayant de détecter des graphes d'intérêt majeur. Un graphe d'intérêt majeur, ça peut être constitué très bien uniquement de signaux faibles. Donc, aucun n'est intéressant. Tous sont au-dessous du radar, mais ensemble, ils peuvent très bien constituer un graphe d'intérêt majeur significatif qui caractérise une attaque. Le résultat. Alors, vous retrouvez ici le résultat. Alors, on a changé un peu la forme graphique, mais c'est ce que nous donne la couche de corrélation. Il n'y a que la forme qui change. Donc, on a les employés en bas, les non-employés en haut et les équipements réseau. On voit tout de suite qu'on a la chaîne BI1, BI2, BI3, qui comprend la partie de l'attaque hostile qui a eu des effets, est directement détectée. Ici, c'est détecté en tant que suspect, mais ça participe de la chaîne. On voit bien effectivement cette personne extérieure qui semble envoyer le mail, il vient du hacker. Il y a une usurpation d'identité, je le rappelle. Ça semble venir de cette personne. On voit bien le mail ici qui est envoyé contenant la pièce jointe malicieuse. On retrouve le scan de port et la connexion du hacker ici vers l'équipement vulnérable pour voler les documents. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on a bien détecté la partie hostile efficace du scénario. On a très peu de faux positifs et encore uniquement pendant la phase de calibration, ce qui est acceptable, et pas de faux négatifs. Mais ce n'est pas tout. On a eu des résultats inattendus. Donc, je prends par exemple ici, le système nous a détecté un flux suspect. C'est la pièce jointe qui a été envoyée au deuxième employé. Il n'a pas activé la charge. Néanmoins, en production, ce serait très intéressant. La charge se trouve peut-être toujours sur son PC, la charge utile. Donc on a détecté une partie du scénario ici qui était hostile, sans effet, mais on l'a vu dans la détection. Autre résultat inattendu, le système nous a trouvé une quatrième incongruité. On a été étonné, on a été voir dans nos données, elle s'y trouvait bien. Lorsque le hacker se connecte ici sur l'équipement, en fait, il rebondit vers le PC numéro 48. C'est là que les documents ont été volés. Donc là encore, dans un environnement réel, ce serait intéressant d'aller voir si d'autres choses n'ont pas eu lieu sur ce PC, s'il n'y a pas une autre vulnérabilité éventuellement à assainir. Bon, il y a eu d'autres détections. Je prends par exemple ici, on voit bien que le PC de l'employé numéro 1 a effectué un scan de port vers un autre équipement. Donc on voit bien qu'on détecte non seulement la partie hostile effective, mais on détecte également tout ce qui était connexe, la partie hostile qui n'a pas eu d'effet. Donc on a un résultat qui est tout à fait explicable. En rapide conclusion, donc en comparant par rapport aux biais qu'on voulait éviter, Donc, en termes de performance, on n'est pas tout à fait à la cible. L'apprentissage n'a pas encore de passage à l'échelle. Les faux positifs, on en a peu, ils sont évitables. Pas de faux négatifs. On n'a pas sursimplifié du tout le problème, puisqu'on s'entraîne sur la totalité du jeu de données, avec des variables de multi-types, multivariées. On a une bonne explicabilité et la détection est complète. On n'est pas du tout, tombé dans la simplicité d'avoir un simple compteur sur l'effet temporel, puisqu'on utilise une analyse de graphe. On prend bien en compte la temporalité, et j'insiste, on s'adapte à n'importe quelle échelle de temps. Si tout le scénario tenait dans une seconde, par exemple des flux financiers à très grande vitesse, ou si c'est une APT qui dure pendant des mois, on sait les gérer, même si on a des échelles de temps mélangées. Ça marche tout seul, ça s'adapte tout seul à cette temporalité. La grenouille ébouillantée, on n'a pas du tout adressé pour l'instant, faute de temps. Donc ça reste à faire. Et évidemment, on pourra nous reprocher d'autres limitations, à savoir que pour l'instant, les données sont synthétiques. Le scénario, il est un peu simple, on a assez peu de données. Donc on va effectivement adresser les points associés aux cibles dans une deuxième preuve de concept qu'Alexandre va vous présenter.
Merci Jean-Philippe. Donc au niveau de cette deuxième preuve de concept, le premier objectif, c'était de passer sur des données réelles, donc se passer du côté synthétique. Donc cette fois-ci, on va simuler l'activité d'un PC Linux, d'un utilisateur sur Linux qui va exécuter un script malicieux. Ce script, il va ensuite télécharger le code source de l'exploitation d'une vulnérabilité sur Internet, le compiler et l'exécuter pour tenter d'élever ses privilèges. Donc je tiens à préciser que c'est vraiment le code source d'une vraie exploitation de vulnérabilité. Donc au niveau des actions normales, l'utilisateur il va effectuer des tâches bureautiques classiques, donc Internet, des mails et autres traitements de texte. Et de temps à autre, il va exécuter des commandes et des scripts bash. Donc maintenant, ce qui se passe derrière, on a changé quelque chose. Donc dans un premier temps, c'est des données réelles. Cette fois, on a 12 millions de métriques, donc 25 fois plus que pour la première partie. Ça correspond à environ 2 millions de métriques par jour. Une semaine de collecte de données normales sur lesquelles on va s'entraîner. Et ensuite, les données qu'on va collecter vont être les actions sur la machine. Donc ça va pouvoir être les actions qui vont être simplement refusées par la machine, refus de permission par exemple, mais également les commandes exécutées ou encore plus fin, les appels système, certains appels système particulièrement dangereux pour notre machine, qui peuvent être dangereux pour notre machine. Et on va prendre en compte quelques éléments de contexte, donc quel est l'utilisateur qui va effectuer les actions et quel est le processus par exemple qui va effectuer ces actions. Au niveau de la partie IA, cette fois on a changé des choses. Donc, dans un premier temps, vu qu'on est où on doit traiter en temps réel des données réelles, on va devoir convertir aussi en temps réel. Donc il va y avoir des variables qui sont plus ou moins simples à transformer en nombre. Donc on va devoir le faire en temps réel, ça aussi. L'algorithme, cette fois-ci, il a changé. Donc plutôt que les forêts d'isolation, on va utiliser des réseaux de neurones auto-encodeurs. Donc on est toujours en non-supervisé. Mais cette fois-ci, on a gagné en capacité de mise à l'échelle, étant donné qu'un réseau de neurones est entraînable sur un cluster de machines. À partir du moment où on a assez de données pour le faire. On a adjoint à ce réseau de neurones plusieurs techniques de régularisation pour avoir des modèles qui sont capables de généraliser, ce qui est assez important dans le cas des données de production, dans le cas d'un modèle en production. On pourra revenir plus tard, si vous voulez, sur ces techniques de régularisation. Au niveau du score, cette fois-ci, il est entre 0 et 1, et il n'est toujours pas filtré, étant donné que c'est important pour la phase de corrélation. Les performances restent en temps réel, donc 2000 métriques par seconde, ça c'est parce qu'on n'a pas pu tester plus, c'était ce qu'arrivait à nous générer la machine en temps réel. Et en ce qui concerne la phase de corrélation, on n'a rien changé, on garde la même chose que pour la première partie. Au niveau des résultats, donc là on retrouve bien la chaîne totale, de l'exécution du script bash à l'exécution de l'exploit compilé. Mais ce qui est très intéressant de noter ici, c'est le script bash en lui-même. Donc le script bash, l'utilisateur il en exécute régulièrement, donc en soi c'est pas anormal. Donc c'est ce qu'on appellerait un signe faible, étant donné que, en apparence, c'est normal. Mais étant donné qu'il fait le lien entre tous les autres éléments de l'attaque, il participe quand même à ce scénario hostile. Bon, par contre, on pourra remarquer qu'il y a quelques faux positifs, étant donné que sur une semaine d'activité, on n'a pas le temps de capter la totalité des actions qui peuvent être effectuées sur une machine. Donc je pense notamment aux actions programmées, type mise à jour ou autre. Mais on n'a toujours pas de faux négatifs, on a bien détecté la totalité de notre chaîne hostile. Donc à titre de comparaison avec la première preuve de concept, cette fois-ci on a gagné une capacité de mise à l'échelle totale, donc c'est assez intéressant dans le cadre d'un cloud par exemple, si on veut multiplier le nombre de machines pour augmenter la taille du système d'information à surveiller, on peut le faire. On a quelques faux positifs qu'on pourrait éviter en améliorant la qualité des données d'entraînement par exemple. On n'a toujours pas adressé par contre ce problème de grenouille ébouillantée, c'est des travaux qui sont en cours mais qui seront présentés un peu plus tard et qui font l'objet des travaux de recherche. Par contre, cette fois-ci, on a bien beaucoup plus de données. On est bien sur des données réelles, donc on n'est plus tombé dans ce biais de données synthétiques. Donc, je vais laisser la main à Jean-Philippe pour conclure sur cette présentation.
Merci. Un petit point de situation. Nous pensons avoir démontré qu'il était assez intéressant d'associer à l'UEBA une couche de corrélation. Ça permet de gagner vraiment en explicabilité et de lier les événements entre eux. On a une bonne explicabilité des alertes. C'est plus visible sur le premier POC que sur le second, mais le second POC n'est pas encore terminé. On prend bien en compte la temporalité sur les échelles quelconques, y compris mélangées. On a peu de faux positifs. L'ensemble passe à l'échelle. Donc ça peut être cloudifié, et effectivement, il suffit de multiplier le nombre de machines par un coefficient pour avoir le même gain en performance. On s'est attaqué aux problématiques d'intégration aussi. Le second POC a été intégré dans la suite Elasticsearch. Donc on s'est confronté un petit peu aux problématiques d'intégration. Donc nos résultats sont encourageants et ils sont confirmés dans des contextes variés. Vous pouvez voir le tableau en haut à droite. On a travaillé avec de bons résultats à la fois sur données réelles et synthétiques, sur des signaux de type flux ou action, sur les deux théâtres différents, soit un système d'information, soit au sein d'un poste de travail, et sur deux algorithmes différents, forêt d'isolation et auto-encodeur. Mais ce n'est pas fini. On est conscient qu'il nous reste beaucoup de travail. Donc effectivement, il nous restera à travailler avec des scénarios beaucoup, beaucoup plus réalistes pour confirmer les résultats. Il nous reste également à nous attaquer à la problématique de la grenouille ébouillantée, donc l'IA de mémorisation. Et comme on aime bien se compliquer la vie, on a décidé également de faire une IA adverse. Donc ces deux derniers points sont travaillés dans une thèse qui débute l'année prochaine. Voilà. Enfin, on va s'attaquer également à la problématique d'intégration avec un SIEM. Donc on peut parfaitement imaginer, vous voyez sur le schéma, au sein d'un SOC existant, un SIEM, dont les alertes viendraient nourrir, en plus des éléments observés, hein, une solution UEBA. Donc on aurait effectivement un expert qui viendrait analyser les graphiques, donc les graphiques tels qu'on vous les a présentés dans les deux POC, et qui viendrait avec l'intelligence de la menace qui serait partagée entre ces deux systèmes, enrichir le système. Voilà, si vous avez des questions, on aura des réponses.
Merci Jean-Philippe et Alexandre. Donc nous allons prendre une ou deux questions dans la salle. Excusez-moi.
Merci pour la présentation. Dans les algorithmes que vous avez présentés, vous avez un auto-encodeur, mais l'auto-encodeur, vous en servez pour faire de la réduction de dimension. Mais je n'ai pas compris après comment vous détectez les incongruités ou les anomalies. Vous faites du clustering non supervisé?
Alors pas du tout, l'auto-encodeur ne sert pas du tout pour la réduction de dimension. En réalité, l'auto-encodeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre à répliquer les données normales. Et une fois qu'il les aurait répliquées, si c'est une anomalie, il va les répliquer vers quelque chose qu'il connaît déjà. Et du coup, on a juste à mesurer l'écart entre les données répliquées et les données d'entrée. On peut détecter les anomalies de cette manière-là.
D'accord, merci.
Et en plus de ça, c'est un grand avantage, c'est que les variables qui vont causer l'anomalie à proprement parler vont être les moins bien répliquées et on va pouvoir les identifier de cette manière-là.